Chapitre 41. Une femme à pied. Il n'existe pas de situation plus horrible que celle où se trouvait Madame du Val-Noble, et le mot « être à pied » la rend à merveille. L'insouciance et la prodigalité de ces femmes les empêchent de songer à l'avenir. Dans ce monde exceptionnel, beaucoup plus comique et spirituel qu'on ne le pense, les femmes qui ne sont pas belles de cette beauté positive, presque inaltérable et facile à reconnaître, les femmes qui ne peuvent être aimées, enfin, que par caprice, pensent seules à leur vieillesse et se font une fortune. Plus elles sont belles, plus imprévoyantes elles sont. Tu as donc peur de devenir laide que tu te fais des rentes ? Est un mot de Florine à Mariette qui peut faire comprendre une des causes de cette prodigalité. Dans le cas d'un spéculateur qui se tue, d'un prodigue à bout de ses sacs, ces femmes tombent donc avec une effroyable rapidité d'une opulence effrontée à une profonde misère. Elles se jettent alors dans les bras de la marchande à la toilette, elles vendent à vil prix des bijoux exquis, elles font des dettes, surtout pour rester dans un luxe apparent qui leur permette de retrouver ce qu'elles viennent de perdre, une caisse où puiser. Ces hauts et bas de leur vie expliquent assez bien la cherté d'une liaison presque toujours ménagée, en réalité comme Asie avait agrafé, autre mot du vocabulaire, Nucingen avec Esther. Aussi, ceux qui connaissent bien leur Paris savent-ils parfaitement à quoi s'en tenir en retrouvant aux Champs-Élysées ce bazar mouvant et tumultueux, telle femme en voiture de louange, après l'avoir vue, 1 an, 6 mois auparavant, dans un équipage étourdissant de luxe et de la plus belle tenue. Quand on tombe à Sainte-Pélagie, il faut savoir rebondir au bois de Boulogne, disait Florine en riant avec Blondet du petit vicomte de Portenduère. Quelques femmes habiles ne risquent jamais ce contraste. Elles restent ensevelies en d'affreux hôtels garnis, où elles expient leur profusion par des privations, comme en souffrent les voyageurs, égarés dans un Sahara quelconque. Mais elles n'en conçoivent pas la moindre velléité d'économie. Elles se hasardent au bal masqué, elles entreprennent un voyage en province, elles se montrent bien mises sur les boulevards par les belles journées. Elles trouvent d'ailleurs entre elles le dévouement que se témoignent les classes proscrites. Les secours à donner coûtent peu de choses à la femme heureuse qui se dit en elle-même « Je serai comme ça dimanche ». La protection la plus efficace est néanmoins celle de la marchande à la toilette. Quand cette usurière se trouve créancière, elle remue et fouille tous les cœurs de vieillards en faveur de son hypothèque à brodequins et à chapeaux. Incapable de prévoir le désastre d'un des plus riches et des plus habiles agents de change, Madame du Val-Noble fut donc prise en plein désordre. Elle employait l'argent de Falex à ses caprices et s'en remettait sur lui pour les choses utiles et pour son avenir. « Comment, disait-elle à Mariette, s'attendre à cela de la part d'un homme qui paraissait si bon enfant ?» Dans presque toutes les classes de la société, le bon enfant est un homme qui a de la largeur, qui prête quelques écus par-ci par-là sans les redemander, qui se conduit toujours d'après les règles d'une certaine délicatesse, en dehors de la moralité vulgaire, obligée, courante. Il y a des gens dits vertueux et probes qui, semblablement à Nucingen, ont ruiné leurs bienfaiteurs, et il y a des gens sortis de la police correctionnelle qui sont d'une ingénieuse probité pour une femme. La vertu complète, le rêve de Molière, Alceste, est excessivement rare. Elle se rencontre néanmoins. Le bon enfant est le produit d'une certaine grâce dans le caractère qui ne prouve rien. Un homme est ainsi comme le chat est soyeux, comme une pantoufle est faite pour être prête aux pieds. Donc, dans l'acception du mot « bon enfant » par les femmes entretenues, Falex devait avertir sa maîtresse de la faillite et lui laisser de quoi vivre. D'Estourny, le galant escroc, était un bon enfant. Il trichait au jeu, mais il avait mis de côté 30 000 francs pour sa maîtresse. Aussi, dans les soupers de carnaval, les femmes répondaient-elles à ses accusateurs « C'est égal, vous aurez beau dire, Georges était un bon enfant et il avait de belles manières. Il méritait un meilleur sort. » Les filles se moquent des lois, elles adorent une certaine délicatesse. Elles savent se vendre, comme Esther, pour un beau idéal secret, leur religion à elles. Après avoir à grand-peine sauvé quelques bijoux du naufrage, Madame du Val-Noble succombait sous le poids terrible de cette accusation. Elle a ruiné Falex. Elle atteignait à l'âge de 30 ans, et quoiqu'elle fût dans tout le développement de sa beauté, néanmoins elle pouvait d'autant mieux passer pour une vieille femme que, dans ses crises, une femme a contre soi toutes ses rivales. Mariette, Florine et Tullia recevaient bien leur amie à dîner, lui donnaient bien quelques secours, mais, ne connaissant pas le chiffre de ses dettes, elles n'osaient sonder la profondeur de ce gouffre. 6 ans d'intervalle constituaient un point d'aiguille un peu trop long dans les fluctuations de la mer parisienne entre la torpille et Madame du Val-Noble pour que la femme à pied s'adressât à la femme en voiture. Mais la Val-Noble savait Esther trop généreuse pour ne pas songer parfois qu'elle avait, selon son mot, hérité d'elle et venir à elle dans une rencontre qui semblerait fortuite, quoique cherchée. Pour faire arriver ce hasard, Madame du Val-Noble, mise en femme comme il faut, se promenait aux Champs-Élysées tous les jours, ayant au bras Théodore Gaillard, qui a fini par l'épouser et qui, dans cette détresse, se conduisait très bien avec son ancienne maîtresse. Il lui donnait des loges et la faisait inviter à toutes les parties. Elle se flattait que, par un beau temps, Esther se promènerait et qu'elle se trouverait face à face. Esther avait Paccard pour cocher, car sa maison fut en 5 jours organisée par Asie, par Europe et Paccard, d'après les instructions de Carlos, de manière à faire de la maison rue Saint-Georges une place forte. De son côté, Peyrade, mû par sa haine profonde, par son désir de vengeance et surtout dans le dessein d'établir sa chère Lydie, prit pour but de promenade les Champs-Élysées dès que Contenson lui eut dit que la maîtresse de M. de Nucingen y était visible. Peyrade se mettait si parfaitement en anglais et parlait si bien en français, avec les gazouillements que les Anglais introduisent dans notre langage. Il savait si purement l'anglais, il connaissait si complètement les affaires de ce pays, où par 3 fois la police de Paris l'avait envoyé, en 1779 et 1786, qu'il soutint son rôle d'anglais chez des ambassadeurs et à Londres, sans éveiller de soupçons. Peyrade, qui tenait beaucoup de Musson, le fameux mystificateur, savait se déguiser avec tant d'art que Contenson, un jour, ne le reconnut pas. Accompagné de Contenson déguisé en mulâtre, Peyrade examinait de cet œil qui semble inattentif, mais qui voit tout, Esther et ses gens. Il se trouva donc naturellement dans la contre-allée où les gens à équipage se promènent quand il fait sec et beau, le jour où Esther y rencontra Madame du Val-Noble. Peyrade, suivi de son mulâtre en livrée, marcha sans affectation et, en vrai nabab qui ne pense qu'à lui-même, sur la ligne des deux femmes, de manière à saisir à la volée quelques mots de leur conversation. « Eh bien, ma chère enfant, disait Esther à Madame du Val-Noble, venez me voir. Nucingen se doit à lui-même de ne pas laisser sans un liard la maîtresse de son agent de change. D'autant plus qu'on dit qu'il l'a ruinée, dit Théodore Gaillard, et que nous pourrions bien le faire chanter. Il dîne chez moi demain. Viens, ma bonne, dit Esther. Puis elle lui dit à l'oreille, j'en fais ce que je veux, il n'a pas encore ça. Elle mit un de ses ongles tout gantés sous la plus jolie de ses dents et fit ce geste assez connu dont la signification énergique veut dire « rien du tout ». « Tu le tiens !»« Ma chère, il n'a encore que payé mes dettes. » « Est-il petite poche ?» s'écria Suzanne du Val-Noble. « Oh !» reprit Esther, « j'en avais à faire reculer un ministre des Finances. Maintenant, je veux 30 000 francs de rente avant la lettre. » « Oh, il est charmant, je n'ai pas à me plaindre. Il va... Dans 8 jours, nous pendons la crémaillère, tu en seras. Le matin, il doit m'offrir le contrat de la maison de la rue Saint-Georges. Décemment, on ne peut pas habiter une pareille maison sans 30 000 francs de rentes à soi, pour les retrouver en cas de malheur. J'ai connu la misère et je n'en veux plus. Il y a de certaines connaissances dont on a trop tout de suite. » « Toi qui disais « la fortune, c'est moi », comme tu as changé !» s'écria Suzanne. « C'est l'air de la Suisse, on y devient économe. Tiens, vas-y, ma chère, fais-y un Suisse et tu en feras peut-être un mari, car ils ne savent pas encore ce que sont des femmes comme nous. Dans tous les cas, tu en reviendras avec l'amour des rentes sur le grand livre, un amour honnête et délicat. Adieu. » Esther remonta dans sa belle voiture, attelée des plus magnifiques chevaux gris pommelés qui fussent alors à Paris. « La femme qui monte en voiture, » dit alors Peyrade en anglais à Contenson, « eh bien, mais j'aime encore mieux celle qui se promène. Tu vas la suivre et savoir qui elle est. » Voici ce que cet anglais vient de dire en anglais, dit Théodore Gaillard en répétant à Madame du Val-Noble la phrase de Peyrade. Avant de se risquer à parler anglais, Peyrade avait lâché dans cette langue un mot qui fit faire à Théodore Gaillard un mouvement de physionomie par lequel il s'était assuré que le journaliste savait l'anglais. Madame du Val-Noble alla dès lors très lentement chez elle, rue Louis-le-Grand, dans un hôtel garni décent, en regardant de côté pour voir si le mulâtre la suivait. Cet établissement appartenait à une Madame Gérard, que, dans ses jours de splendeur, Madame du Val-Noble avait obligée et qui lui témoignait de la reconnaissance en la logeant d'une façon convenable. Cette bonne femme, bourgeoise honnête et pleine de vertu, pieuse même, acceptait la courtisane comme une femme d'un ordre supérieur. Elle la voyait toujours au milieu de son luxe, elle la prenait pour une reine déchue, elle lui confiait ses filles, et, chose plus naturelle qu'on ne le pense, la courtisane était aussi scrupuleuse en les menant au spectacle que le serait une mère. Elle était aimée des deux demoiselles Gérard. Cette brave et digne hôtesse ressemblait à ces sublimes prêtres qui voient encore une créature à sauver, à aimer, dans ces femmes mises hors la loi. Madame du Val-Noble respectait cette honnêteté, souvent elle l'enviait en causant le soir et en déplorant ses malheurs. « Vous êtes encore belle, vous pouvez faire une bonne fin, » disait Madame Gérard. Madame du Val-Noble n'était d'ailleurs tombée que relativement. La toilette de cette femme si gaspilleuse et si élégante était encore assez bien fournie pour lui permettre de paraître, à l'occasion, comme le jour de Richard Darlington à la porte Saint-Martin, dans tout son éclat. Madame Gérard payait encore assez gracieusement les voitures dont la femme à pied avait besoin pour aller dîner en ville, pour se rendre au spectacle et en revenir. « Eh bien, ma chère Madame Gérard, » dit-elle à cette honnête mère de famille, « mon sort va changer, je crois. » « Allons, madame, tant mieux, mais soyez sage, pensez à l'avenir. Ne faites plus de dettes. J'ai tant de mal à renvoyer ceux qui vous cherchent. » « Eh, ne vous inquiétez pas de ces chiens-là, qui tous ont gagné des sommes énormes avec moi. Tenez, voici des billets de variété pour vos filles. Une bonne loge au deuxième. Si quelqu'un me demandait ce soir et que je ne fusse pas rentrée, on laisserait monter tout de même. Adèle, mon ancienne femme de chambre, y sera. Je vais vous l'envoyer. » Madame du Val-Noble, qui n'avait ni tante ni mère, se trouvait forcée de recourir à sa femme de chambre, aussi à pied, pour faire jouer le rôle d'une sainte Estève auprès de l'inconnu dont la conquête allait lui permettre de remonter à son rang. Elle alla dîner avec Théodore Gaillard, qui, pour ce jour-là, se trouvait avoir une partie, c'est-à-dire un dîner offert par Nathan, qui payait un pari perdu, une de ces débauches dont on dit aux invités « Il y aura des femmes ».